à gagner le grand public. On se demande s'il y aura de quoi chauffer nos maisons l'hiver prochain, comment faire rouler nos voitures et surtout combien tout ça coûtera. Tout le monde sait maintenant que les grands pays industrialisés dépendent, sont à la merci du Moyen-Orient pour leur approvisionnement en pétrole. Il a suffi que des bouleversements politiques importants en Iran tarissent le pétrole en provenance de ce pays, et bien pour que l'Occident revive l'angoisse de l'automne 1973. On se souvient qu'à l'époque, à la suite d'un boycottage des pays arabes, eh bien le prix du pétrole avait été multiplié par 4. Nous serions, selon certains, au bord d'une crise plus grave encore. La question donc posée ce soir à Forum, l'Occident devra-t-il rationner le pétrole? Mes invités, je vous présente tout d'abord M. James Akin, qui a été ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite de 1973 à 1975, qui est un spécialiste des questions pétrolières. M. Guy Thauron, qui lui est ministre délégué à l'énergie dans le gouvernement québécois. M. Antoine Ayoub, directeur de la recherche en économie de l'énergie à l'Université Laval. Et enfin, M. David Miserali, qui lui est éditeur du bulletin Mideast Report à New York, un journal traitant des affaires, du Proche-Orient. Alors écoutez, ma première question, elle s'inspire directement de l'actualité, je la pose à l'ambassadeur Ekin. En dépit de la signature éventuelle d'un traité de paix entre Israël et l'Égypte, est-ce que la position des intérêts américains, des intérêts occidentaux au Moyen-Orient n'est pas pire qu'elle ne l'était avant même que ce traité ne soit conclu?
Oui, je crois que oui.
Vous pensez que la situation est pire maintenant pour les intérêts occidentaux dans cette partie du monde?
Non, non, parce que ce n'est pas un pays entre l'Israël et les Arabes. C'est un pays entre l'Israël et l'Égypte. Et c'est ça qui ont peur les Arabes depuis longtemps, ou depuis 300 maintenant. Et à mon avis, les pays d'Arabie Saoudite et les pays du Golfe vont couper les subventions en Égypte. Et si les États-Unis et les pays de l'Europe et du Japon ne sont pas prêts de subventionner l'Égypte eux-mêmes 2-3 milliards de dollars par an, alors c'est la possibilité.
Ça date pas tomber. Et à ce moment-là, on ne saura pas qui en Égypte va prendre la relève, s'ils sont sympathiques ou pas aux Américains.
Oh, c'est très bien, ils ne sont pas sympathiques aux Américains. Parce qu'ils sont très proches, trop proches à Saddam. C'est exactement comme l'Iran. Les relations entre les États-Unis et l'Iran, le Shah, c'est très proche. Et évidemment, n'importe quel gouvernement successeur va être, pour le moment en tout cas, anti-américain. Et si Saddam chute, certainement, ce serait très rare.
Et avec l'Arabie Saoudite, sur laquelle les États-Unis comptaient énormément, qui s'éloigne maintenant, qui prend ses distances par rapport aux Américains, par rapport aux États-Unis, ça devient un peu inquiétant.
Exactement.
Monsieur Miserali, est-ce que vous voyez la situation sur un jour aussi noir?
Il est un fait certain que l'Arabie Saoudite, comme vous l'avez si bien dit, a pris ses distances des États-Unis. Ça, c'est un fait certain. Maintenant, si l'on peut dire à M. Virgin, si le conseil du président Carter va aller où il était en ce moment, je suppose, les gens en Arabie Saoudite, il va essayer de colmater la brèche, pour ainsi dire. Je ne la vois pas, la situation aussi noire. Tout dépend, en ce qui me concerne, à mon avis, tout dépend de l'Arabie Saoudite. Parce que tous les autres pays suivants, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, tout ça, bon, c'est l'Arabie Saoudite. Et si je peux ainsi dire.
C'est un peu le leader.
Qui est le leader, mais il paraît qu'il se passe en ce moment d'une division entre les leaders de l'Arabie Saoudite. Il y a un groupe qui veut maintenir des relations avec les États-Unis, plus ou moins, pas aussi fortes qu'avant. Il y a un groupe qui, d'après mes informations, serait dirigé par le prince Fahd, qui est le prince héritier, et qui voudrait quand même se lier un peu plus avec les régimes radicaux arabes, y compris l'Irak.
Vous êtes quand même un peu moins pessimiste que M. Ekin.
Un peu moins pessimiste.
Toujours vous rentrez d'un séjour en Arabie Saoudite, mi-février. Vous avez donc des nouvelles fraîches là-dessus. Comment vous avez perçu ça?
Parce que j'ai perçu, d'abord et avant tout, c'est la volonté des Saoudiens d'arrêter ce qu'ils appellent, eux, le gaspillage éhonté que les gens américains en général fond de cette ressource que eux considèrent précieuse, le pétrole, et qu'ils veulent conserver jusqu'à un certain point dans le sol pour la préserver pour les générations futures, pour des emplois, si vous voulez, plus nobles que de faire avancer des bagnoles qui sont seulement à 12 degrés au galon ou chauffer des maisons mal isolées. Alors, j'ai perçu que les Séoudiens trouvaient que nous faisions un usage irrationnel de l'énergie en Amérique du Nord et que si on voulait qu'il reste du pétrole, qui est une matière première essentielle pour des choses comme la chimie, les produits pharmaceutiques, les engrais, ces choses-là, c'est-à-dire qu'il faudrait que les pays grands consommateurs changent un peu leur habitude. Et à l'occasion de ce resserrement des approvisionnements que les événements en Iran ont occasionné, je ne pense pas qu'on peut compter sur les Saoudiens pour ouvrir les robinets, pour combler le déficit. Je ne le pense vraiment pas.
Et justement, la question qui suit pour faire un peu avancer notre discussion, je la pose à M. Ayoub. Est-ce que l'Occident, et je pense aux États-Unis en particulier, est-ce qu'on peut se permettre de perdre cette source d'approvisionnement? Et ma question a des implications très grandes, selon qu'on répond par la négative, si on ne peut pas se permettre de perdre ça, qu'est-ce qui va se passer?
Mais avant de répondre à votre question, j'ai l'impression, je voudrais, avec votre permission, revenir à une question fondamentale concernant l'actualité dont vous avez évoqué tout à l'heure.
D'accord.
Il y a un phénomène qui est à la base de cette actualité, qui est le suivant à mon avis. Tant et aussi longtemps que l'Occident, et de manière précise les États-Unis, voit au Moyen-Orient uniquement des puits de pétrole, et non pas des populations qui ont une histoire, qui ont des traditions, et qui ont des systèmes de valeurs, on aurait toujours, et tout le temps jusqu'à l'épuisement du pétrole, des situations similaires à celles que nous avons maintenant en Iran. Et j'ai l'impression que toute la stratégie américaine concernant le Moyen-Orient, la paix au Moyen-Orient, si elle ne dérive pas d'un changement de cette mentalité, nous amènerait, qu'il y ait accord entre l'Égypte et Israël, ou qu'il n'y ait pas accord, nous amènerait vers des catastrophes.
C'est-à-dire que les Américains ne pourraient y rester que militairement que par la force. Si on peut envisager une pareille éventualité.
Et même pareille éventualité, ça serait pire. Ça serait pire que l'éventualité, vous voyez bien que, par exemple, les Américains n'ont pas pu intervenir en Iran. Puisque intervenir dans ces pays, ça veut dire susciter une guerre civile avec des aléas terribles qui peuvent durer pendant des mois. Donc, votre question concernant la sécurité des approvisionnements, eh bien, cette sécurité recevrait un coût très rude. Pour revenir à ce que vous m'avez posé après ce préambule que je trouvais très important, pour revenir à votre question concernant est-ce que l'Occident souffrirait si effectivement le peuple moyen-oriental diminuerait, la réponse est nécessairement oui.
Et ma question, elle est toujours, je vais demander, la pose à vous, peut-être à M. Hichet, est-ce que les Américains, comme on l'a un peu indiqué, je pense, au propos du secrétaire américain, ne sont pas prêts à aller jusqu'à utiliser la force pour protéger ce qui pour eux est quasiment aussi important que le déclasse. Je vous pose la question.
C'est beaucoup plus important pour nous que le Texas actuellement, la commission dit. Et c'est certainement une prévenir pour nous et pour tout le monde si la finition du temps dans les mains des ennemis. Et les États-Unis nous sont capables évidemment de protéger la finition du contre une attaque de l'extérieur. Jerry Brown et ses pêcheurs n'ont pas dit ça. Et je suis complètement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas le danger. Le danger n'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur, comme un Iran.
C'est vrai, l'extérieur pourrait s'écrouler de par des pressions qui viendraient de force à l'intérieur même du pays.
Et les États-Unis sont absolument incapables de défendre un régime quelconque, un Iran, un Saoudite, partagé. Si le peuple se prend de cette région, complètement incapable.
Je suis allé là-dessus, vous parlez.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le peuple séoudien soit un peu contre les dirigeants de l'Arabie Saoudite?
Non, je crois qu'en Iran, par exemple,
non, certainement pas.
Non, certainement pas, c'est complètement différent. Mais chose de sujet que vous avez apporté avant, c'est-à-dire la division dans la famille royale.
Ça
existe, oui, ça existe peut-être, mais il n'y a pas une faction de ces qui est contente avec l'accord entre Israël et l'Égypte.
Et ça n'a pas dit ça.
Et tout le monde est contre ça. Il y a des gens qui disent que nous devons nous éloigner des États-Unis, beaucoup, et les autres ici, qui disent un peu moins que ça. Mais c'est le seul différence entre les deux groupes. C'est-à-dire que si nous forçons les familles royales, par exemple, d'accepter ce traité, supporter le Camp David Accord, par exemple, ou bien l'accord entre Israël et l'Égypte, ou bien si nous pouvons persuader les Saoudiens de continuer la subvention à l'Égypte, alors à mon avis, ce serait le plus grand faux que nous pouvons faire aux États-Unis actuellement, parce que ce serait la fin de la famille royale, parce que ce serait considéré par le peuple et même par une grande partie de la famille royale comme une trahison aux causes arabes. C'est une stupidité énorme.
Bon, je pense qu'on comprend un peu mieux, les spectateurs comprennent un peu mieux la précarité de la situation dans cette partie du monde, tellement vitale pour l'Occident sur le plan de l'approvisionnement en pétrole. Je voudrais en dire à ce qui est en train de devenir la nouvelle politique des pays producteurs de pétrole, politique qu'on a mieux vu se manifester à l'occasion des événements d'Iran. C'est-à-dire que certains ont pris la relève de l'Iran, qui ne fournissait plus de pétrole, mais ils se sont dit à un moment donné, un instant, on ne va pas combler perpétuellement ce déficit-là. Il semble que se développe une politique, c'est-à-dire de vendre moins de pétrole et de vendre plus cher. Pourquoi on analyse là toujours?
Ben, en partie parce qu'il y a toutes sortes de phénomènes qui expliquent ça, mais l'un d'entre eux, qui est particulier, je pense, à l'Arabie Saoudite, qui a une population relativement restreinte, peut-être à peu près la population du Québec, c'est sur 7 millions, les chiffres sont un peu imprécis, et qui a des revenus fantastiques, avec lesquels, qui n'arrivent pas d'ailleurs à tout dépenser, avec lesquels ils poursuivent un programme de développement absolument effréné. Il faut tout faire pour avant-hier. Le téléphone, l'électricité, les routes, les hôpitaux, les écoles. On dit qu'on ouvre une école à tous les deux jours, en Arabie Saoudite. Les ports, les aéroports, enfin tout. C'est absolument invraisemblable. Et là, tout ça se fait à un coût absolument fantastique. Un peu comme on a construit le stade olympique de Montréal. Alors, il paye un prix fantastique pour ce développement-là. Alors, plus c'est alimenté, si vous voulez, par des revenus pétroliers, ça attise les flammes de l'inflation. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a un rythme au développement qu'on ne peut pas dépenser. Je pense à cette phrase du président du Mexique, López Portillo, qui dit « Je mangerai à la vitesse que je peux digérer ». Alors, c'était un peu ça qui est en train de se passer dans plusieurs des pays exportateurs de pétrole. Et c'est la raison pour laquelle on va peut-être, sinon diminuer physiquement, mais du moins ralentir considérablement l'expansion de la production.
Est-ce que ce n'est pas la première leçon qu'on tire des événements d'Iran? Que vous résumez par cette formule de M. Portillo, à savoir, on ne mangera qu'à la vitesse qu'on peut digérer. On s'est rendu compte qu'en Iran, le développement trop rapide avait des conséquences sociales assez importantes. M. Ayoub.
Voyez-vous, enfin, l'Arabie Saoudite, depuis 1973, a effectivement mangé plus qu'elle n'a pu digérer pour une raison principale. Et cette raison est une raison fondamentalement politique. Autrement dit, l'Arabie Saoudite a accepté de faire barrage aux demandes des autres partenaires de l'OPEP à la hausse des prix du pétrole, et cela pendant les 5 dernières années, par l'idée que si on est un peu modéré, si on est gentil, eh bien, les Américains vont être aussi gentils sur le plan politique et essayer de résoudre non pas le problème israélo-égyptien, mais le problème fondamental qui est le problème arabo-israélo-palestinien. Donc, tout le problème du Moyen-Orient. Et c'était cela l'idée fondamentale qui poussait l'Arabie Saoudite à effectivement ouvrir les robinets. Or, avec ce qui vient de se produire, il y a des fortes chances que l'Arabie Saoudite revise sa position. Ce qui, sur le plan de l'OPEP, va amener que les dissensions ou le semi-dissension qui existait entre modérés et radicaux n'auront plus lieu, puisque l'Arabie Saoudite, effectivement diminuant sa quantité, eh bien, rejoindrait automatiquement le clan des radicaux et les prix vont avoir tendance à augmenter.
Voilà. Pour des raisons donc de politique intérieure qu'évoquait M. Jourdan, pour des raisons de politique extérieure, on comprend c'est qu'on en vient à cette politique nouvelle. Est-ce que vous la trouvez justifiée, M. Hick?
Exact.
Oui.
Oui, certainement.
Vous trouvez que leur décision là sur ce défend est.
Oui,
de parce que plusieurs en Occident tendance à les qualifier d'égoïstes, de cupides, de tout ce que vous voulez.
De pan intérieur, évidemment, ils doivent le faire. Comme dit M. le professeur Ayoub, vous savez, les Serbiens produisent beaucoup plus qu'ils devaient le faire. Il y a beaucoup de gens en Arabie Saoudite qui prétendent qu'il ne faut pas produire plus que 3 millions par jour.
Et ils produisent 9.
C'est 3 fois plus que ça. Et c'est un pays très petit. Il n'y a pas plus que 4 millions et demi de Saoudiens et des étrangers, 2 millions d'étrangers là-bas, dans le pays.
Alors la question suivante, elle est celle-là greffée à l'actualité qui va venir très bientôt, dans une dizaine de jours, le 26 mars, cette réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, de l'OPEP. Certains ont parlé d'une hausse possible, qui est fouineur un peu, d'une hausse possible de 50%. Est-ce que ça a l'air raisonnable? Est-ce que ça a l'air...
C'est trop fort. La hausse est certaine. Mais dans le pourcentage, je ne sais pas. La hausse est certaine, et comme ce professeur Ayoub l'a dit, et comme monsieur l'ambassadeur aussi l'a indiqué, l'Arabie saoudite est en train de se rallier de plus en plus vers les radicaux. C'est comme
ce qui veut dire qu'elle ne freinera plus ceux qui poussent à la hausse.
Et elle sera plus en mesure de freiner pour deux raisons principales. D'abord, le courant est pour la hausse, du fait que la production iranienne est déjà abaissée de... mettant 50%, de 6 à 3 pratiquement par an. Et deuxièmement, l'Arabie saoudite est insatisfaite avec les États-Unis. Comme le professeur Ayoub l'a dit, les Saoudiens ont maintenu le prix de pétrole dans l'espoir que les États-Unis allaient faire un geste. Je suppose que les États-Unis ont fait le geste, mais pas tout à fait ça.
C'est pas celui qu'ils attendaient.
Non,
insuffisant,
c'est ça. Alors, c'est pour ça que l'Arabie saoudite, maintenant, d'ailleurs, elle a manifesté à plus d'une reprise, son mécontentement, hein. Non seulement du point de vue économique, mais même politique, le fait que le prince Fahd, l'homme fort de l'Arabie saoudite, est abruptement, d'une manière très abrupte, il a juste décidé de ne plus venir.
D'annuler son voyage aux États-Unis. Mais de quel ordre de grandeur peut-on imaginer la hausse pour qu'on puisse...
Vous savez, si vous permettez,
oui, je vous permets.
Voyez-vous, moi je crois que pour avoir une idée, quoique le 26 n'est pas très loin, mais quand même, puisqu'on est ici, on pourrait donner quelques idées, et quoique on doit passer par deux secondes d'ordre technique.
D'accord.
Il y a un marché à Rotterdam qui s'appelle le marché spot, où se transigent les transactions de courte durée et qui se font directement.
C'est le pétrole qui n'est pas lié par des contrats de longue durée.
Par des contrats de longue durée, c'est ça. Alors, sur le marché spot qui a flambé, comme on dit, ces derniers temps, les prix se transigent actuellement dans les environs de 21 jusqu'à 24 dollars le baril, au moment où le prix pétrole OPEP se vend à presque 13 dollars le baril, le marker crude, c'est-à-dire le
reste 34.
34, approximativement avec les problèmes de qualité et les problèmes de degré. Mais, alors, les pays producteurs, ou quelques-uns parmi eux, seraient très facilement incités à dire, eh bien, notre pétrole se vend effectivement sur le marché spot à ce prix, c'est-à-dire au prix de 24 dollars. Est-ce qu'ils doivent décider, donc, que le prix du pétrole doit monter jusqu'à 24 dollars? Je ne croirais pas. Mais je croirais plutôt que ceci est un signe, est une indication. Comme quoi, si le pétrole se vend comme ça, il faut faire attention à un autre problème très grave, c'est que le pétrole acheté par les compagnies des pays de l'OPEP se revend, ou une partie se revendrait sur le marché spot en assurant des bénéfices, disons, confortables pour ces compagnies.
Pour ces compagnies, vous avez lancé là, dans la discussion justement un mot clé, les compagnies pétrolières. Est-ce qu'elles vont souffrir de ces événements?
Moi je pense que si certaines d'entre elles profitent du marché spot pour faire des profits rapides, qu'à plus ou moins moyen terme, elles vont souffrir énormément. Et je pense que c'est ça le phénomène nouveau de ce qu'on peut appeler cette deuxième crise du pétrole.
Écoutez, si vous voulez. On explique à court terme, elles pourraient faire des profits.
Bon, ben, elles en font au moment où l'on se barre.
Ouais, mais à moyen terme.
Parce qu'on voit ce qui est arrivé en Iran, et je pense que ça, c'est très significatif de ce qui va se reproduire ailleurs.
C'est vrai que l'Iran vendait sa production à travers un consortium formé de compagnies occidentales, principalement dans
le
pétrolium et d'autres associés, qui sont comme, si vous voulez, les intermédiaires, les brokers, pour la revente du pétrole. Ça, c'est fini pour l'Iran. La même chose arrivera peut-être bientôt en Arabie Saoudite. Le rôle de l'Aramco, d'ici quelques mois, quelques années, faudra voir. Et dans d'autres pays, ainsi de suite. Alors, on a vu il y a 5 ou 6 ans les pays producteurs franchir un pas énorme, prendre le contrôle de leurs ressources, mais ils n'ont pas pris le contrôle au-delà, si vous voulez, du moment où le pétrole quittait la frontière. Le reste est quand même resté le domaine des compagnies internationales. Ça, c'est maintenant remis en cause.
Raison, la finale.
Exactement. Et c'est très important, et c'est ça qui va peut-être déranger considérablement. Les quantités sont toujours là. Il n'y a pas de pénurie, il ne faut pas crier à la panique. Mais le système lui-même est dérangé et va devoir trouver un nouvel équilibre et possiblement de nouveaux intermédiaires.
C'est-à-dire, enfin, je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre Durand. On peut dire que ceci, c'est que les pays producteurs vont être incités à se poser la question suivante. Pourquoi ce sont les compagnies qui feraient 8-7 dollars sur nos barils de pétrole et non pas nous? C'est-à-dire, non pas s'en passer des compagnies, mais leur servir une leçon. D'ailleurs, il y a des déclarations très officielles dans ce sens.
Ne plus utiliser l'intermédiaire des compagnies.
Non pas ne plus utiliser, mais de dire, eh bien, ce n'est pas à vous que ça revient ces 8 dollars, c'est bien à nous, les 8 dollars. Okay. Puisque c'est notre pétrole que vous vendez, et qu'on vous vend à 13,5 dollars ou 13,15 dollars, et que vous revendez, par pour en profiter de situations de crise passagère, ou de tension passagère, vous en profitez pour hausser les prix, eh bien, c'est un profit que nous, on doit...
Parce que l'année 1974, l'année de la crise majeure des années 70, la première, les compagnies ont fait des profits très très grands à l'époque, et il semble que l'année 79 sera aussi une année assez extraordinaire pour les compagnies pétrolières. Monsieur Misraïli, comment vous percevez ça?
Oui, je pour trouve, les compagnies. Déjà, il y a au Congrès américain des congressmen qui justement se plaignent du fait que certaines sociétés pétrolières sont en train d'amasser des bénéfices énormes. Et nous sommes déjà, comme vous savez bien, au début de 79. Donc vous vous rendez compte que ce sera à la fin de l'année 79. Moi, d'après moi, jugeant de la période 73-74 en docteur de l'embargo, je trouve que le pétrole, comme M. le ministre l'a si bien dit, existe. Il y a du pétrole. Je crois que c'est une crise un peu artificielle, quoique j'avoue qu'il y a une diminution de la production iranienne, ça c'est un fait certain, et qu'il va y avoir une diminution de la production de 15% de la production libyenne. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer sur ces crises qui existent en fait, mais qui sont trop inflated, comme on dit.
Est-ce qu'on n'est pas beaucoup moins mal pris qu'en 1973 dans le sens suivant? C'est que maintenant, il y a des nouvelles sources de pétrole. Quand on parle de l'Alaska,
alors, le point n'est pas mal pris.
Il y a le Mexique en particulier que j'ai à l'esprit. Et je vous pose la question là, du point de vue du grand public, on dit peut-être que.
Le bon n'est pas mal pris, au contraire, moi je trouve qu'en 79, on est déjà mieux qu'en 74. En début 79, on est mieux qu'en début 74. Parce que, calculons, c'est simple. L'Iran, diminution de 3 millions de barils par jour. Bon. La Libye a annoncé, je ne sais pas si elle va le faire, mais mettons qu'elle va le faire, c'est 15%. La Libye produit 2 millions de barils par jour. D'un autre côté, qu'est-ce que nous avons comme pendant? Nous avons le Mexique qui produit actuellement 1,6 million par jour, qui va produire l'année prochaine 2,2 million. Donc, il y a plus ou moins une balance, alors que l'embargo de 73, il y avait tous ces pétroles arabes qui étaient coupés, n'est-ce pas? Là, alors nous avons une petite faille ou un petit déficit, si vous voulez, de quelques millions de barils.
Monsieur Ekin, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non. Le pétrole arabe n'était pas coupé en 1960.
Était coupé vis-à-vis des États-Unis, pas
et
pour l'Europe.
Oui, évidemment, alors c'est une grande différence. Alors, il est, et ce n'est pas 3 millions que nous manquons de l'Iran, c'est 6 millions d'abord. Et le manque de pétrole maintenant est beaucoup plus qu'en 1973. À base, à cette époque, ce n'était que 5% du pétrole dans le commerce mondial. Et maintenant, c'est plus. De l'autre côté, maintenant nous avons une organisation, la National Energy Agency à Paris, qui doit en principe diviser le pétrole qui est dans le monde. Pas? Mais ce n'est pas l'International Energy Agency qui le fait maintenant, c'est encore exactement comme il y a 5 ans, c'est les compagnies qui le font. Vous avez l'expérience ici au Canada, alors avec le Imperial ESO. C'est une compagnie qui a décidé, pas les gouvernements,
c'est les compagnies,
en agissant comme une souveraine, quoi, en divisant le pétrole dans le monde. Et à mon avis, c'est pas pour eux, pas pour elles, mais pour les pays eux-mêmes de le faire. Le mécanisme existe à Paris, mais jusqu'ici, ce n'était pas un jeu.
Alors, dans votre esprit, à vous, la situation est plus difficile, sera plus difficile maintenant qu'en 1974, parce que le déficit, les robinets ouverts moins grands, ça va avoir des conséquences plus grandes à plus longue
durée. Le déficit est plus grand. Et maintenant, nous entrons dans une période, à mon avis, pour au moins 10 ans, et peut-être plus, peut-être pour toujours, quand le pétrole serait très restreint. Et alors, nous ne pouvons pas compter de plus que 3 millions de barils de l'Iran pour l'avenir.
Donc c'est la moitié de ce qu'elle fournissait
antérieurement. Plus important que ça, c'est que la question de la stabilité en Iran, et nous ne pouvons pas compter de la stabilité en Iran dans l'avenir, pour au moins 10 ans. Et je ne peux pas dire que l'Iran serait stable en 10 ans, non. J'ai dit qu'avec les problèmes intérieurs, de côté politique et de l'autre aussi côté national, parce qu'il y a des colonies en Iran, des provinces qui veulent l'autonomie. Alors avec tous ces problèmes en Iran, on doit compter un coupage complet, d'une interruption complète de production de l'Iran dans l'avenir, en 10 ans. Et si l'Iran est si difficile, quoi. Et alors, si nous avons une révolution dans n'importe quel pays de l'OPEP, l'Algérie, par exemple, ou l'Indonésie, ou bien s'il y a une catastrophe naturelle, ou bien s'il y a un sabotage à Abkhaz, ou bien à Rastanour, et tout c'est possible. Alors, nous pouvons perdre, dans un coup, 2 millions de barils par jour. Et si ça, c'est en plus cette perte est en plus de la perte de l'Iran, alors le monde entre dans une période.
Alors je pense que là-dessus, il y a une opposition entre le point de vue de M. Misraïl et celui de M. Eket. M. Ayoub, comment vous situez par rapport à ça?
Moi je me situe, il faut d'abord clarifier la situation, parce que quand on a parlé des compagnies en disant qu'ils font du profit sur le marché spot, cela ne doit pas vouloir dire, et j'avais pas à l'esprit du tout, que ceci est fabriqué de toutes pièces. Il y a une crise, elle n'est pas catastrophique, mais il y a une crise qui peut le devenir. C'est-à-dire, il y a effectivement, et le calcul que M. l'ambassadeur vient de faire concernant les barils perdus, c'est un calcul juste et vérifié, chiffre en main. Maintenant, ce problème-là ne peut trouver sa solution que par l'intermédiaire essentiellement de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Or, on a déjà dit que l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe ne seront pas incités, étant donné ce que nous disions sur l'actualité politique de cette région et sur les derniers accords qui viennent d'être signés, ne seront pas incités à effectivement faire la balance entre ce qui nous manque du pétrole par le fait iranien et par les autres faits qui peuvent se produire et effectivement rétablir l'équilibre au moins pour les quelques années qui vont venir. Ceci étant dit, et même si on met de côté tous ces problèmes d'ordre actuel et même la situation de l'Arabie Saoudite, la question fondamentale est de regarder en matière énergétique un peu plus loin que demain. Et en 1985, l'Arabie Saoudite non seulement doit faire la balance actuelle, mais elle doit augmenter sa capacité de production jusqu'à à peu près 16 à 17 millions par jour. Or, puisque nous sommes en train de dire que l'Arabie Saoudite ne pense même pas produire ce qu'elle est en train de produire actuellement. Alors je trouve que effectivement on s'en va vers une situation qui a été si bien décrite par M. l'ambassadeur Ekins, et que effectivement s'il n'y a pas amélioration sur le plan d'ordre politique et sur le plan d'ordre économique aussi,
encore une fois, de ne pas regarder ces pays comme uniquement des dépositaires de puits de pétrole, mais des pays qui veulent se développer à un rythme normal et humain, eh bien là, on est effectivement
mal pris. C'est une perspective très inquiétante que celle que tous les deux vous décrivez. Le pétrole en particulier, je pense au Mexique.
Oui, mais il faut se poser la question que ces nouvelles sources d'énergie ne peuvent surgir du néant. Il faut quand même que le prix bouge pour que les nouvelles sources d'énergie deviennent rentables. On ne peut pas, par exemple, aller prospecter dans l'Alaska ou ailleurs dans des conditions vraiment très très difficiles au moment où le prix du pétrole est de 16 dollars. Au moment où le coût d'un baril supplémentaire est de 20 à 25 dollars.
Il y a ici deux problèmes. D'abord, il y a de nouvelles sources, c'est certain. Maintenant, tout dépend aussi de la politique de ceux qui possèdent les nouvelles sources. Ouais, par exemple, le Mexique a décidé, M. Portillo a décidé que ce sera 1 600 000 barils cette année et 2 200 000 barils l'année prochaine. J'interviewais les gens de la Petroleos Mexicanos il y a 2 semaines à Pemex à Mexico. Ils m'ont dit que rien ne va changer. J'ai dit quand même, après la visite du président Carter, comme vous savez, qui a eu lieu le 14 février, est-ce que vous avez l'intention d'augmenter la production? Ils m'ont dit non, c'est une politique arrêtée et seulement le président de la République, c'est-à-dire M. Portillo, qui décide. La Pemex, c'est une organisation qui exécute, ce n'est pas une organisation politique. Donc, les nouvelles sources de pétrole sont importantes, c'est très bien, mais il faut encore produire.
Oui, d'autre part, ce n'est pas aussi facile que certains profanes peut-être peuvent imaginer qu'on fait le trou et puis le pétrole jaillit et puis il manque 3 millions de barils, ben voilà, on est là puis on récolte. Mettre un nouveau gisement en production, ça peut prendre des années, ça doit suivre un certain rythme. Alors, bien qu'il y ait des réserves probables, potentielles au Mexique qui soient considérables, on n'aura pas ce pétrole-là dans 6 mois, vous savez, même pas dans 2 ans. Alors, je pense que le moment, il faut aussi essayer de tirer de toutes circonstances mon parti. Et le moment est opportun, spécialement ici en Amérique du Nord, qui sont les plus grands consommateurs d'énergie par habitant au monde, de prendre conscience. Il y a des moyens très rapides et qui n'était pas des sacrifices ou un malaise physique pour baisser la consommation d'énergie. C'est possible. Je pense que ça va au moins cette utilité-là de faire prendre conscience au public ici au Canada et aux États-Unis du sérieux de la situation. Et ça a un autre effet extrêmement bonifique dans le sens que ça bonifie tous les efforts de substitution qui se font. Vous savez qu'on en fait des considérables. Au Québec, on consacre 25% de nos investissements totaux à la production d'hydroélectricité aussi, ici au Québec, justement pour se défaire de cette dépendance-là. Alors, des événements comme ceux-là viennent bonifier, si vous voulez, des politiques de substitution que celles que nous avons ici, que dans d'autres régions du Canada, je pense au sable bitumineux, par exemple, dans l'Ouest. Tout ça va être rendu plus facile et plus facilement réalisable.
Mais imaginons que le scénario là, qu'on a évoqué tout à l'heure, côté de M. Ayoub et de M. Mekin, se réalise. Comment, par exemple, l'Europe pourrait-elle, comme on l'a indiqué, couper de moitié ses importations de pétrole d'ici 1985? Imaginez les conséquences.
Oui. Bien, écoutez, pour l'Europe, voyez-vous, elle a commencé depuis 1973 à tirer les vrais leçons de la crise, beaucoup plus. Si vous la comparez par rapport aux États-Unis, vous voyez que les États-Unis, chose très bizarre, très paradoxale, ont tiré juste les leçons inverses de 73. Autrement dit, la situation continue à consommer comme auparavant, et même à dépendre de plus en plus du pétrole étranger. Tandis qu'en Europe, il y a eu un effort sérieux, qui n'est pas complet, mais qui est un effort sérieux, suivi, concernant que ce soit la conservation de l'énergie. Et il y a aussi le problème de l'énergie nucléaire, qui a posé énormément de problèmes en Europe et qui ont continué à en poser. C'est que les adeptes de l'énergie nucléaire se trouvent en face d'une minorité ou d'un courant de la population qui a peur de l'énergie nucléaire. On peut comprendre ce genre de réaction, un peu viscérale si vous voulez, mais qui existe. Alors le débat est pris. Mais ici en Amérique du Nord, le débat n'est pas encore
sérieusement. Mais à plus ou moins court terme, en Europe. C'est le rationnement.
Eh bien, encore une fois, enfin, si vous parlez de la crise, de la tension actuelle, il faut attendre la réunion de l'OPEP pour voir les prix s'établir à quand et à combien. Et puis alors après, on pourrait répondre à une telle question. Si les prix, par exemple, s'établiraient à 15-16 dollars, il y aurait automatiquement un ajustement de la demande. Maintenant, si vous me demandez est-ce que cela n'amènerait pas une certaine récession, ma réponse est claire et ça va être oui.
Mais alors, tout le monde va devoir faire le même réajustement en même temps, puisque du fait de notre appartenance à l'Agence internationale de l'énergie qui coupe tous les pays sauf la France, auquel vient de s'ajouter maintenant l'Australie, je pense que tout récemment, dans 20 pays, les 20 principaux pays industriels, dont le Canada, ont fait partie d'un pool, si vous voulez. Si la consommation dans l'ensemble arrive à baisser au-delà de 7%, je crois, bien à ce moment-là, le mécanisme de répartition entre les pays joue. Alors, en d'autres mots, il n'y en a pas un qui sera vraiment plus mal pris que l'autre. On va tous souffrir également et dans la même proportion.
Déjà, pour les États-Unis, c'est M. le secrétaire à l'énergie, je pense que c'est Sajegul, qui a prévu des conséquences assez dramatiques d'ores et déjà. Il n'a pas attendu la réunion du 26 mars. Il dit qu'il y aura une récession d'ici la fin de l'année 79. Est-ce que c'est trop noir? Est-ce que c'est trop pessimiste? Est-ce que c'est le genre d'avis que vous donnez à vos clients, M. Ekenstein?
Bon, ça dépend. C'est certainement très difficile pour le monde d'accepter une hausse des prix du pétrole de 5 ou 6 dollars sans provoquer une récession aux États-Unis et ailleurs. Et ce serait catastrophique pour quelques pays, pour quelques autres pays, par exemple le Japon et l'Allemagne, où le prix du pétrole en yen et en marque ont baissé depuis 4 ans. Alors pour eux, c'est assez facile. L'autre question, c'est la division du pétrole dans le monde. Et évidemment, il y a des mécanismes dans la AIEA à Paris de diviser le pétrole, mais c'est pas sûr si ça vient à ce point, si ce pays vraiment accepterait les formules. Parce qu'il n'y a pas un traité d'abord, il n'y a pas une obligation nationale d'accepter cette division. Le Japon, par exemple, importe 100%. Tout de leur pétrole. Nous apportons 50%. Les Japonais prétendent qu'ils ont une économie très conservatrice, tandis que les Américains gaspillent le pétrole. Et c'est plus ou moins vrai. Mais, d'après les Japonais en tout cas.
Donc ils pourraient refuser les demandes de l'Agence internationale d'énergie à cause de ça.
Exact, les Japonais disent que c'est impossible pour nous d'accepter le même. Diminution de nos importations de les Américains, parce que ça ne sait pas faire. Tandis que nous disons que, très bien, nous gaspillons beaucoup de pétrole, nous avons des villes qui sont très larges, c'est impossible de reconstruire nos villes dans une année ou même dans une décade. C'est la même chose avec nos automobiles. Il y a une voiture avec une personne à tous nos superhighways aux États-Unis, évidemment. Mais nous n'avons pas des mass transports. Ça n'existe pas. C'est impossible de changer la façon de vivre aux États-Unis dans une année. Alors, nous disons que nous devons avoir le pétrole aussi. Mais les Japonais disent aussi, nous sommes prêts de payer 1 $ plus que le prix de l'OPEP. Alors, ça c'est le bottom line.
Est-ce que, M. Aliou?
Effectivement, enfin, ce genre de conclusion, par exemple, la Rockefeller Foundation, dans un document qui est paru il y a quelques mois, arrive qu'on peut facilement envisager une situation où il y aurait, entre les alliés, c'est-à-dire les États-Unis d'une part, les Japonais et les Européens d'une part, tiraillement, surenchère concernant le pétrole, et le surenchère deviendrait en même temps économique et politique. Autrement dit, on politiserait encore plus le pétrole.
D'accord. Et ramenons le débat à la situation nord-américaine. Est-ce que dans pareille conjoncture, les États-Unis ne vont pas être tentés de négocier beaucoup plus durement avec leurs voisins? J'ai parlé tout à l'heure du Mexique, il y a aussi le Canada. Et le Canada pour le pétrole de l'Ouest, mais aussi pour le gaz naturel.
Pour ce qui est du gaz naturel, ça ne porte poser un très gros problème à l'heure actuelle parce que la production de gaz naturel aux États-Unis même a plafonné, la demande a plafonné même. Il y a des surplus de gaz naturel qui se sont développés dans l'Ouest canadien et l'on sait qu'il y a des réserves dans l'Arctique évidemment qui coûteront cher à aller chercher, mais on les connaît. Et si besoin est, on pourra aller les chercher. Alors, le continent nord-américain comme tel dispose de ressources qui lui permettent de faire une substitution très large. Il y a des sources de charbon considérables aux États-Unis. Le continent globalement ressource de beaucoup de gaz naturel. Certains coins du continent, comme le nôtre, ici au Québec, disposent de ressources hydroélectriques absolument fantastiques. Et enfin, il y a le développement de des énergies qu'on appelle nouvelles. Alors, moi, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas un alarmiste.
Mais vous n'êtes pas inquiet, mais pourtant...
Il y a une transition qui va devoir être, la plus rapide possible. Et des événements comme ceux qu'on vit à l'heure actuelle, s'ils ont pour effet d'enclencher ces changements-là et de les précipiter, alors ce sera pour le mieux.
Vous n'êtes pas alarmiste, mais il reste que si l'on en vient à la situation canadienne elle-même, les plus menacés sont les gens du Canada de l'Est, Québec compris, parce que nous dépendons
non.
plus
ça, c'est une...
de produits importés.
Ça, c'est une fausse idée, parce que si on parle du Canada, il y a l'Alberta et tout le reste. Nous sommes exactement dans la même position que l'Ontario. Au Québec, comme les Maritimes, comme le Manitoba, un peu moins vrai pour la Saskatchewan.
Est-ce que l'indépendance du pétrole dans l'Ontario est aussi élevée, 70% ici au Québec qu'en Ontario?
Ben, c'est, si on mélange pétrole et gaz naturel, c'est plus élevé. Le Québec reçoit à peu près 25% de ses approvisionnements énergétiques sous forme d'hydroélectricité. Dans l'Ontario, c'est à peu près la moitié moins. Alors tout le reste en Ontario est importé. C'est des hydrocarbures, soit gaz naturel, soit pétrole. Alors, en réalité, il y a l'Alberta qui a une position de surplus. Tout le reste du Canada a une situation difficile. Alors, c'est faux d'essayer d'isoler géographiquement ce qu'on appelle les maritimes, l'Est, le Québec et les maritimes. L'Ontario est dans une situation énergétique plus affolante encore que ou aussi affolante, si on veut faire l'affolement. Que Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas de ressources, il y a plus de ressources énergétiques en Ontario.
Sérieux, vous êtes aussi serein que
le ministre. Mais je ne vais pas donner l'air d'être alarmiste. Vous savez, quand j'ai parlé de la situation internationale, je suis plutôt réaliste que alarmiste. Concernant la situation du Canada et du Québec et des maritimes, il est un peu vrai, si on pousse l'analyse un peu loin, ce que le ministre vient de dire, mais il n'en demeure pas qu'il y a aussi que les maritimes, par exemple, sont tributaires du pétrole étranger à 100%, ce qui n'est pas le cas de l'Ontario. L'Ontario est tributaire du pétrole de l'Alberta essentiellement et très subsidiairement, très marginalement, 10% du pétrole étranger. Dans le cas du Québec, depuis un certain temps, depuis deux ans, enfin, depuis le pipeline qui va de Sarnia à Montréal, on est maintenant à 50-50 à peu près, on
soit 64-70.
Bon, alors, il est évident que moins on diminue notre dépendance envers le pétrole, disons, fluctuant, où le pétrole a problème, et mieux c'est. Et évidemment, tout le problème est de savoir ce pétrole sûr durera jusqu'à quand. Le grand problème du Canada, c'est cela. C'est qu'après tout, bon, le pétrole de l'Alberta, c'est pour combien de temps? Or, vous savez très bien que, sur ce point bien précis, l'Office national de l'énergie a fait des déclarations souvent contradictoires et puis qui se corrigent des fois l'une l'autre. Oui. Je ne parle pas du gaz, avec les changements de quelques chiffres, on arrive à augmenter ou à diminuer, ce n'est pas ça, mais du pétrole. Vous savez qu'on nous a dit qu'en 1982, eh bien, l'Est du Canada ne recevra pratiquement plus de pétrole. Après, on a dit, eh bien, on va pousser encore un peu plus, c'est jusqu'à 1984. Et tout ça, c'est un peu l'encrier, vous savez, l'histoire des réserves de l'Alberta. Mais ce qui est sûr, c'est que ces réserves-là, 1985-86, on peut chicaner sur deux ans ou trois, eh bien, il arrive un moment qui est très proche de nous. 6-7 ans, ce n'est pas beaucoup, eh bien, le pétrole albertain ne serait pas de secours vraiment important. Oui. Et quand je dis 7 ans, parce que je regarde que le temps passe très vite, n'est-ce pas, ici, et puis à notre émission, et puis dans le monde, n'est-ce pas, c'est que, effectivement, il y a 5 ans que la crise pétrolière a lieu. Ça fait 5 ans, et c'est vite fait.
Sur ce point que nous avons évoqué tout à l'heure, que M. Wiggins a évoqué tout à l'heure, savoir cette décision d'Ottawa d'aller directement à la source. Est-ce que vous endossez ce geste-là, c'est-à-dire de passer par-dessus la compagnie impériale qui, elle, obéit à sa maison mère et d'aller chercher le pétrole directement au Venezuela? Ça nous concerne directement ici, c'est un geste que vous ne pouvez qu'approuver.
Je pense que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus. Je le disais, vu de l'autre bout du problème tout à l'heure, que les pays producteurs eux-mêmes voudront se passer le plus possible dans l'avenir de l'intermédiaire que sont les grandes sociétés multinationales et traiter directement d'État à État. Alors dans ce sens-là, on peut s'attendre au Canada que Pétro-Canada joue un rôle peut-être de plus en plus important. Et ici au Québec même, on envisage, comme la charte, sa loi le permet, à peut-être faire jouer un rôle semblable, si besoin est, à SOQIP également.
La Société québécoise
d'initiative pétrolière.
Quel est le rôle de Pétro-Canada?
Qui peut être acheteur sur les marchés internationaux. La douane permet à SOQIP de faire cela. Alors, c'est pas impossible qu'on en vienne à ça. Mais remarquez, avant d'arriver à ça, le système n'est pas encore complètement démantelé. Vous avez cité le cas des sources, c'est un exemple en particulier. Il y a d'autres sociétés multinationales à Montréal qui ne passent pas par leur maison mère et qui s'approvisionnent elles-mêmes directement. Nous sommes en contact évidemment régulièrement avec ces sociétés-là et certaines d'entre elles ont des petits problèmes, d'autres pas. Alors, c'est en suivant la situation, en fait c'est presque quelque chose qu'il faut suivre au jour le jour, qu'on pourra être en mesure d'évaluer s'il faut suppléer à un moment donné, intervenir ou mettre un nouvel agent, si vous voulez, dans le portrait.
Ouais, mais il reste qu'à court terme en tout cas. Il faut s'attendre ici à des hausses importantes de l'essence, de l'huile à chauffage, même pour l'hiver qui vient.
Des hausses de prix?
Oui.
Eh bien, cela dépend, vous savez, du système de consensus entre le fédéral et les provinces. Vous savez très bien que notre pétrole, par exemple, que nous consommons ici, il n'est pas du tout encore au niveau actuel du prix mondial. Alors, on s'en va vers cela, mais on n'en est pas encore au prix mondial. Alors, qu'est-ce qui se passe?
À cause de l'action du gouvernement fédéral, là,
mais à cause, je préfère dire à cause du consensus entre les provinces et le gouvernement fédéral.
Principalement
entre l'adversaire et puis le fédéral, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que le gouvernement qui va avoir lieu d'ici quelques temps, puisqu'il y aurait eu certainement des élections, et bien, le nouveau gouvernement, est-ce qu'il va tout de suite faire en sorte que les prix à l'intérieur du Canada vont rattraper les prix mondiaux, ou est-ce qu'il y aurait encore décalage? S'il y a toujours décalage, il est effectivement vrai que même si les prix montent, ils ne monteront pas autant que les prix mondiaux. À l'intérieur, je parle.
Et quelle sera également la position du nouveau gouvernement Laurie, fraîchement élu?
Exactement.
Fraîchement réélu,
exactement. Est-ce qu'il accepterait de faire effectivement ce qu'il a fait jusqu'à présent?
Parce qu'en fait, ce sont les Albertains qui font les frais de ça pour l'instant.
De la politique canadienne pour l'instant.
Tous les Canadiens paient le pétrole moins cher que le reste du monde. Il y a, ça c'est soustrait quelque part. À qui est-ce que c'est soustrait? C'est soustrait essentiellement à la province produite. Et combien de temps cet équilibre peut durer? De toute façon, même le gouvernement fédéral lui-même n'aurait pas prévu que ça durerait plus que quelques années à peine. Est-ce que ça va se précipiter, là? Je pense que la pression des prix internationaux vont certainement précipiter les choses, d'autant plus qu'il y a eu des élections.
Oui, je voulais revenir à un point particulier. Tout à l'heure, j'ai parlé des nouvelles sources d'énergie pétrolière, mais pour ce qui est des États-Unis, ben, des énergies de substitution,
ceux dont parlait M. Jean, quels sont les efforts qu'on fait dans ce sens?
Très peu.
Alors, vous dépendez pour 50% du pétrole importé, il n'y a pas de travail très sérieux fait dans la
institution. On en parle, et d'après le plan de président Carter, nous allons augmenter notre production de charbon, par exemple, de 700 millions de tonnes jusqu'à 1200 tonnes en 85. Et alors, c'est à peu près une augmentation de production de 10% par an. Et alors, l'augmentation de l'année passée était 1%. Alors, nous avons beaucoup de problèmes avec les mines, avec les mineurs, avec les gens qui sont contre la pollution de l'air, quoi. Et c'est assez difficile. Et le point de vue de l'énergie atomique, c'est encore pire. Il y a 15 ans à peu près, notre plan pour 85 était de produire 225 gigawatts. Alors, en 73, c'était augmenté jusqu'à 400 gigawatts. Et maintenant, nous savons exactement ce que c'est notre production. Il serait 100 gigawatts. Alors, c'était diminué de 400 jusqu'à 100. Et on a beaucoup de problèmes avec le strip mining, par exemple, le charbon dans le reste. C'est le même problème. Avec la stimulation de production de gaz, de force nucléaire, alors c'était abandonné. On ne passe plus. Et c'est très difficile chez nous. Et même du point de vue de conservation, tout le monde est d'accord que dans le court terme, conservation est la chose la plus importante que nous pouvons faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Une taxe sur le pétrole, impossible. C'est pas acceptable pour le pays, c'est pour le Congrès. À mon avis, c'est acceptable pour les citoyens. Mais notre Congrès n'est pas des leaders.
Sur le plan du nucléaire, pourquoi ça ne développe pas davantage aux États-Unis? Quels sont les blocages?
Moi, à mon avis, voyez-vous, on parle, mais il y a des réalités. La réalité est la suivante. On a besoin de pétrole, il n'y a pas de production assez suffisante de pétrole. Donc, ce sont là deux faits certains. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un réajustement, comme M. le ministre a dit. Il faut une augmentation aussi, un développement des sources alternatives du pétrole. Ça, c'est un fait certain. Maintenant, à cause de la consommation de pétrole et du manque de production, le pétrole va rester, c'est un fait certain. Bon. Mais jusqu'à quel point le prix du pétrole va être relevé? Il arrivera un moment, je crois, où le pétrole, c'est un peu fantaisiste, mais on ne sait jamais, vous savez, toujours. Il arrivera un moment où le prix du pétrole sera plus ou moins acceptable pour les autres sources d'énergie. Là, alors, on commencera à développer les autres sources d'énergie. Parce qu'au fond, c'est plus réaliste. On ne peut pas tirer les plans sur la comète, il faut voir ce qui se passe. Il y aura une augmentation du pétrole et les États-Unis, tôt ou tard, finiront par comprendre le problème. Parce que c'est trop beau, je sais, j'ai habité les États-Unis, on est gâté. Je dois le dire, monsieur l'ambassadeur, on est très gâté, on ne fait pas d'efforts. Il faut faire un effort. Chaque fois que j'habite dans la banlieue, je me rends à New York, j'habite dans New Jersey, je vois des grosses voitures avec un conducteur. Pourquoi? Je rentre dans des maisons, ils sont chauffés à 72 degrés Fahrenheit. Pourquoi? Je ne veux pas. Et personne ne veut. Je leur dis. Mais réduisez un peu, enfin réalisez. Oh, je suis habitué.
C'est mieux pour la santé.
C'est pas... Oui, c'est mieux de... Alors, il faut, tôt ou tard, ça va venir. Hein. Et je dis plutôt tôt que tard. Partout, j'entends 1980 ou plus tard 81. On va la sentir. Je ne veux pas être alarmiste, je veux être réaliste.
Monsieur Ayoub, rapidement.
Oui, rapidement, je veux dire une chose. Vous savez, quand vous avez l'énergie, je m'excuse de parler en économiste, mais il faut. Conserver l'énergie, agir sur les prix. Votre exemple concernant le monsieur qui voudrait prendre une grosse voiture ou se chauffer, ou se surchauffer, etc., il continuerait à le faire tant et aussi longtemps qu'à la fin du mois, il ne va pas payer la facture et il ne va pas sentir, comme on dit, la douloureuse.
Oui.
Bien, tant qu'il n'a pas senti cette douloureuse, il n'y a aucune raison, et il est tout à fait logique pour lui et rationnel, d'allouer son budget comme il l'a fait auparavant.
Et nous avons toujours vécu avec la conscience que c'était illimité.
Eh bien, exactement. Mais qu'est-ce qui nous enseigne que c'est limité ou illimité? C'est les prix. Si les prix montent, cela veut dire que le produit devient rare. Or, jusqu'à présent, avec nos politiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, eh bien, effectivement, on est des populations dorlotées au niveau des prix. Oui. Puisque les prix internes n'ont pas monté pour indiquer aux consommateurs moyens comme quoi il y a effectivement crise. C'est d'ailleurs pour cette raison que les sondages populaires, que nous voyons que ce soit aux États-Unis ou ici, les gens n'y croient pas qu'il y a crise et ils n'y croient pas que dans 5 ans, il y aurait crise.
De même au Québec, n'est-ce pas?
plus ou moins comme dans le reste de l'Amérique du Nord, mais tout ça, je pense, est appelé à changer assez rapidement maintenant.
Oui. Alors là-dessus, messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'aurais aimé qu'on pousse un peu plus loin peut-être sur cette question du nucléaire que nous avons abordée il y a quelques instants. Alors vous me croyez toujours que vos choix là-dessus sont justifiés. Et freiner le développement du nucléaire à son ancien.
Les choses du Québec. Mais quand vous avez des alternatives meilleur marché, pourquoi ne feriez-vous pas? Remarquez, on n'a pas beaucoup de mérite, on est à peu près unique au monde à être dans cette situation-là. Alors on en profite.
À cause de l'électricité. Monsieur Jouron, Monsieur Ekins, Monsieur Liu, Monsieur Misaï, je remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Bonsoir et bonsoir à tout le monde.
Ici, Radio-Canada.